France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous passons la semaine dans le Tarn, en Occitanie. Le jeu des 1000 euros que vous retrouvez dans un quart d'heure avec des enfants qui répondent aux questions, on est mercredi, est à Assac, petit village à une trentaine de kilomètres d'Albi. Et dans les carnets de campagne, on fait escale à Cahuzac-sur-Vair, près de Gaillac, puis à Réalmont, entre Albi et Castres. D'abord pour parler d'un centre de soins palliatifs qui est assez singulier, vous l'entendrez. Et ensuite pour s'intéresser à un rucher école, le grand public vient s'y former à l'apiculture et ce centre rencontre un très grand succès. Les abeilles jamais ne cessent de fasciner. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Voici une colocation de soins palliatifs. Ces deux termes surprennent quand ils sont mis côte à côte. Les soins palliatifs semblent peu compatibles en effet avec la coloc. Et c'est pourtant ainsi qu'est pensée la maison Astrolabe, un lieu de vie qui n'est ni un hôpital ni un EHPAD et où les personnes accueillies sont, comme à la maison, des personnes vulnérables en raison de leur grand âge ou d'une maladie grave. Bonjour Delphine Calicis.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes infirmière en soins palliatifs de formation, présidente et fondatrice de cette maison Astrolabe qui est à Cahuzac-sur-Vair, près de Gaillac, dans le Tarn. Alors, c'est une vraie coloc ?
Oui, c'est une vraie coloc, une maison de 12 chambres où vivent 12 personnes, soit en habitat permanent, soit en séjour de répit. Il y a deux chambres qui permettent d'accueillir des personnes en vacances ou pour soutenir les aidants. Ce sont des personnes souvent isolées, en situation de vulnérabilité. Elles peuvent être, comme vous l'avez dit, âgées ou en soins palliatifs, mais elles peuvent aussi être en situation de handicap. Elles sont toutes vulnérables.
Est-ce qu'il existe d'autres maisons qui fonctionnent sur le même modèle en France ?
En fait, le modèle, on nous classe comme un habitat alternatif parce qu'en fait, nous ne rentrons dans aucune case. Ça n'existe, il n'y a pas de cadre juridique à l'heure d'aujourd'hui. Nous avons construit cette maison comme un vrai domicile avec toutes les ressources que nous connaissons à domicile. Car en fait, nous sommes des professionnels de santé du domicile. Nous nous sommes constitués en CPTS, c'est-à-dire les communautés professionnelles territoriales de santé, qui fédèrent les professionnels autour d'un projet de santé. Et donc, c'est grâce à cette CPTS qu'on a pu monter la maison Astrolabe.
Et vous constatez que ça change tout de vivre en coloc pour ces personnes-là ?
Oh oui, puis surtout, c'est le fait qu'ils soient peu nombreux. Donc, c'est une maison à taille humaine. C'est un peu une grande famille et les personnes sont chez elles. Et donc, elles décident un petit peu de comment elles ont envie de vivre. D'ailleurs, chaque mois, on se réunit et on discute à savoir comment améliorer le quotidien de chacun d'eux.
L'association Maison Astrolabe a été créée en 2017. Et aujourd'hui, vous êtes confrontée à un problème de taille. C'est que vous n'êtes pas reconnue comme centre de soins palliatifs. Pour quelle raison ?
Oui, on n'est pas reconnu dans le sens où on attendait l'évolution législative. En tout cas, on a travaillé avec l'Or Ubidos et le collectif des maisons de vie, l'ASFAP, pour créer justement ce nouveau type de lieu. Et on avait grand espoir dans la nouvelle loi au niveau du plan décennal des soins palliatifs et la loi sur la fin de vie. Et c'est malheureusement tout ça est tombé à l'eau avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Et nous sommes toujours en attente, en fait, de cette reconnaissance pour pouvoir aider et pérenniser ce lieu, notamment pour les personnes en soins palliatifs et en situation, on va dire, pour les personnes qui n'ont pas les moyens de payer le loyer qu'on demande aujourd'hui.
Voilà, la conséquence, elle est financière pour les usagers et les usagères.
Elle est financière et aussi au niveau des professionnels. Il manque de la coordination, il manque quelqu'un la nuit. Tout ça, c'est grâce aux bénévoles que pour l'instant, on peut continuer. Et grâce aussi au don de la Fondation des Petits Frères des Pauvres qui nous a beaucoup aidés dans l'aménagement et dans le soutien de notre démarrage.
Vous avez bon espoir que la situation se débloque dans les mois qui viennent ?
En tout cas, il faut rester positif et se dire qu'il y a une volonté des Français de vouloir développer les soins palliatifs. Nous, on propose un modèle. On est nombreux à vouloir créer ce type de maison. Il va bien y avoir un moment donné où les choses vont arriver, je l'espère.
Quelle est votre définition des soins palliatifs, Delphine ?
Alors, c'est dès l'annonce d'une maladie grave pour laquelle on ne guérira pas. C'est toute l'attention qu'on peut porter à quelqu'un qui est malade et tout ce qu'on peut faire quand il n'y a plus rien à faire, en fait. Justement, c'est de pouvoir travailler en équipe et de pouvoir répondre encore à des projets, même si aussi petits soient-ils, pour des personnes qui sont gravement malades, et surtout aussi de soulager la douleur, de répondre aux besoins des personnes, aux angoisses. C'est toute une philosophie de l'accompagnement, les soins palliatifs.
Et pourquoi êtes-vous attachée à titre personnel à ce métier qui semble, disons-le, si dur de l'extérieur ?
Oh, c'est dur pour l'extérieur, justement, mais pour ceux qui y travaillent, c'est très enrichissant, justement parce qu'on n'est pas tout seul, parce qu'on est obligé de travailler en équipe, et c'est très enrichissant. Et puis, le fait d'être confronté à des personnes, à des familles qui sont touchées par la maladie, on est dans le vrai. Voilà, on fait pas semblant, et ça a du sens pour les professionnels de santé.
Et puis c'est peu de dire que la fin de la vie, c'est un moment essentiel de la vie.
Essentiel, et puis on va tous s'y passer, donc autant bien préparer l'avenir, et plus on en parlera, moins on en aura peur. Et il y a plein de choses qui se vivent à la fin de la vie.
Et cette idée de la colocation en fin de vie, en soins palliatifs, ça surprend, j'imagine, parfois ?
Oui, surtout pour les gens d'extérieur, ils se disent mais alors, ils voient des gens, il y a des personnes qui meurent, ça doit être difficile pour eux. Mais en fait, on s'attache aux personnes, et puis ce qui est important dans la maison, c'est qu'on parle beaucoup. C'est pas un sujet tabou pour nous. Toutes les questions qui peuvent surgir, on se pose et on en parle.
La maison Astrolab, c'est donc à Cahuzac-sur-Vair dans le Tarn. Merci beaucoup Delphine Calicis.
Merci à vous.
Et bon courage, bonne journée.
Merci.
Un message d'auditrice à vous lire. Voici ce que nous a écrit Caroline. Je tiens à vous signaler dans le Tarn une équipe de personnes formidables qui accueillent des migrants et notamment des mineurs isolés le temps des démarches juridiques. Ces jeunes ne peuvent avoir recours aux hébergements d'urgence puisqu'ils sont mineurs et se retrouvent à la rue. Toute l'équipe de l'Entre-deux, basée à Gaillac, les accueille dans des familles solidaires ou dans une maison en autogestion accompagnée, les inscrivent au lycée, les accompagnent dans leurs démarches juridiques, médicales, leur propose des activités et des temps de réflexion. Les besoins de cette association, précise Caroline, sont multiples et constants. Besoin de bénévoles, de dons, de nourriture, de vêtements, de crampons, de foot, de matériel scolaire, etc. Association L'Entre-deux. Entre s'écrit avec un A, je le précise. C'est à Gaillac, dans le Tarn.
France Inter. Carnet de campagne.
Nous voici à Réalmont, entre Albi et Castres, pour parler du Rucher École. C'est une association qui forme des amateurs à l'apiculture depuis plus de 50 ans. Cyril Mangenot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président du Rucher École. C'est un engagement associatif. Pour vous, vous travaillez par ailleurs comme ingénieur dans le domaine des antennes satellites. Quel est le principe du Rucher École, dites-moi ? Comment ça marche ?
Donc, le Rucher École dispose d'un espace assez unique en France. On dispose de plus d'un hectare de terrain et de 50 colonies d'abeilles. Et la particularité, c'est qu'on est organisé autour d'une double structure, un aspect syndicat qui dépend du syndicat national d'apiculture, et puis ensuite la mission de l'association plutôt organisée vers la formation en apiculture et la découverte des plantes mellifères grâce à un arboretum.
La formation pour les amateurs rencontre du succès. Hein. Vous sentez un engouement du grand public sur le sujet ?
Oui, on est à guichet fermé, clairement. On prend déjà les adhésions pour 2026. On accueille 35 stagiaires en niveau 1 pour l'initiation et 35 en niveau 2 pour le perfectionnement. Donc, on a clairement un engouement de gens qui soit veulent juste connaître l'abeille et la biodiversité et d'autres qui veulent ensuite poursuivre vers des carrières éventuellement professionnelles. C'est très varié.
Est-ce qu'il est plus difficile aujourd'hui qu'autrefois d'avoir des ruches dans son jardin, Cyril, de pratiquer l'apiculture en amateur ?
Alors la réponse est clairement oui. Moi je suis apiculteur depuis l'âge de 8 ans, j'ai connu l'époque avec mon père où on allait poser une hausse en avril et on allait la rechercher au mois d'août pour récolter le miel et en gros l'intervention s'est limitée à ça. De nos jours, si on procède de cette manière-là, on n'arrive absolument à rien et la ruche meurt au bout de 2 ans. Donc il y a vraiment une évolution et on a un besoin de beaucoup plus de suivi de nos colonies que ce n'était le cas il y a encore quelques années.
Et comment ça se fait ?
Plusieurs causes. On a des reines qui ont durée de vie beaucoup plus courte de par des intrants. Donc, on a un renouvellement de reines supérieur. On a ensuite des problématiques par rapport au frelon asiatique qui va venir décimer certaines ruches. on a des problématiques liées au réchauffement climatique qui font qu'on va se trouver comme l'année dernière avec des printemps très pluvieux où il a fallu nourrir et ensuite après des étés très chauds où en gros il n'y a plus de nourriture pour nos abeilles.
Vous parlez des intrants, pour qu'on soit bien clair, il s'agit des pesticides, hein, des engrais agricoles autour de vous.
Oui, tout à fait, qui malheureusement ont un effet et on a des abeilles qui quittent la ruche et qui ne reviennent pas à la ruche parce qu'effectivement ça agit sur leur système nerveux. Elles deviennent totalement incapables de revenir au bercail.
Alors qu'est-ce qu'on apprend concrètement au rucher école quand on est amateur? Quelles sont les bases de l'apiculture?
On a affaire à des abeilles domestiques et on va apprendre que pour que la colonie se développe, il faut qu'elle ait des ressources mellifères, qu'elle puisse trouver des ressources dans son environnement. Et on va apprendre à ce qui se passe dans la boîte. En fait, on découvre un peu le monde merveilleux des abeilles, comment elles agissent et comment elles interviennent par rapport à l'environnement.
J'imagine qu'il y a parmi vos stagiaires des gens qui en faisaient sans avoir spécialement suivi de formation. Est-ce qu'il y a des pratiques à remettre en cause, des erreurs à corriger ?
Oui, alors tous les ans, on a quelques stagiaires honteux qui arrivent et qui nous disent, voilà, ben moi, en fin de compte, j'ai eu deux ruches, je les ai perdues, donc maintenant, je viens faire la formation. Et c'est vrai que c'est notre credo, c'est-à-dire que pour avoir une belle aventure avec les abeilles, l'aspect formation est fondamental. Ce n'est que des déboires que de vouloir se lancer en apiculture sans avoir fait une formation digne de ce nom.
Et je précise que c'est une association, c'est très peu cher, hein, de suivre la formation au rucher école.
Tout à fait. C'est que du fait qu'on a 40 intervenants qui nous aident. Alors souvent les intervenants sont des gens qui ont fait la formation pendant 2 ans, qui ne veulent pas nous quitter et qui donc en fait décident de rester avec nous. Et donc on apprécie beaucoup ces gens-là. On est tous des bénévoles et donc ça nous permet d'offrir une formation à 80€ par an, donc ce qui est vraiment très peu cher compte tenu d'un programme qui s'étend de janvier à novembre à raison de 2 cours par mois.
Dites-moi Cyril, pourquoi est-ce qu'on devrait tous s'intéresser au mode de vie des abeilles, qu'on soit ou non féru d'apiculture?
Tout simplement parce que c'est passionnant.
Vous n'êtes pas très objectif.
Dès qu'on commence à essayer de comprendre le fonctionnement de la ruche, ça devient magnifique. Comment pouvez-vous expliquer qu'une abeille, une reine qui est née il y a 6 jours, puisse aller faire 2 kilomètres ou 3 kilomètres pour retrouver une congrégation de faux bourdons pour se faire féconder et revenir à la ruche sans se perdre en chemin? C'est ce qui est magnifique, c'est l'aspect que tout n'est pas résolu, tout n'est pas connu, tout n'est pas maîtrisé. Donc nous, on communique par la parole, par le regard. Elles vont communiquer avec des phéromones, elles vont communiquer avec des danses, elles vont communiquer avec des chants, vous connaissez le chant de la reine. Donc si vous voulez, c'est ce qui me motive vraiment, c'est l'aspect essayer de comprendre le fonctionnement de la ruche.
S'intéresser au rucher, c'est aussi s'intéresser à l'intelligence collective, hein, la répartition du travail entre les abeilles.
Tout à fait. Contrairement à l'humain, une abeille qui naît va faire tous les métiers dans sa vie. C'est-à-dire que on n'est pas né pour devenir ingénieur ou pour devenir médecin. Non, elle va faire tout. Elle va commencer à être nourricière. Elle va commencer à s'occuper de l'entretien de la ruche. Elle va ensuite être gardienne. Plus tard, elle va devenir butineuse. Donc, si vous voulez, c'est magnifique de voir cette évolution de carrière tout au long de la vie des abeilles et en fait de voir le modèle. Parce que les gens s'imaginent que la reine a tous les pouvoirs. C'est absolument faux. Elle est un chef d'orchestre et même tout juste parce qu'en fin de compte, ce sont les ouvrières qui décident pour elle. Hein. Elle a un rôle très limité, beaucoup plus limité que ce qu'on pourrait croire.
Et la répartition entre mâles et femelles, qu'est-ce que ça donne ?
On a 300-400 mâles par ruche. Ils sont vus comme des oisifs, des mâles propres, des maladroits, des gloutons. Bref, ils ont tous les défauts, bon, à part celui de féconder la reine, qui est quand même très fondamental. Mais à part ça, un peu de ventilation, mais pas beaucoup plus.
Un peu de ventilation ?
Oui, pour il faut une régulation thermique de la ruche aux alentours de 34 degrés pour que le couvain se développe. Donc parfois, les abeilles vont ventiler la ruche et la refroidir en été, par exemple. Et là, les mâles y contribuent un petit peu. Mais bon, en gros, c'est la seule tâche qu'il faut, voilà.
Merci beaucoup, Cyril Mangenot. Le rucher école, c'est donc à Réelmont, dans le Tarn. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup. Au revoir.